Laudetur Jesus Christus.
Le monde contemporain marqué par une indifférence égoïste et la recrudescence barbare de l'antisémitisme, le constat inquiet partagé par le pape François ce matin, le Saint-Père recevait une délégation du Centre Simon Wiesenthal, une ONG de lutte contre l'antisémitisme. À la une également, reportage à la frontière entre Israël et le sud de Liban. Depuis la mort du général iranien Soleimani, la peur est montée d'un cran pour les 250 000 Israéliens qui vivent dans la région, en face du Hezbollah qui contrôle la zone. En Irak, la contestation se poursuit et l'avenir politique du pays est toujours très incertain. Les manifestants défilent à nouveau ce lundi dans les rues de Bagdad. Nous ferons le point. Et puis, succès pour SpaceX, la société de lancement américaine dirigée par Elon Musk a réussi hier l'éjection d'urgence d'astronautes de la fusée Falcon 9 depuis Cantanarival. Dernière étape avant l'autorisation d'un vol habité au printemps.
Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
Bonjour, le pape dénonce les recrudescences barbares de l'antisémitisme. Recevant ce matin une délégation du Centre Simon Wiesenthal, une ONG engagée dans la lutte contre l'antisémitisme, le Saint-Père a pointé l'augmentation globale d'une indifférence égoïste qui favorise la haine et le rejet de l'autre. À l'approche du 75e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz, le Saint-Père invite juifs et chrétiens à mettre leur patrimoine spirituel commun au service de l'humanité et de la fraternité. Manuela Affigi.
À rebours d'une mentalité ambiante marquée par un consumérisme verbal fait de paroles inutiles, de temps gaspillé à contester et accuser, le Saint-Père invite plutôt à s'arrêter et à demeurer en silence, comme il le fit lui-même lors de son passage à Auschwitz-Birkenau en juillet 2016. Le silence permet en effet d'écouter le cri de l'humanité, de garder la mémoire, car souligne-t-il, sans mémoire, nous anéantissons le futur. Le pape partage ensuite son inquiétude devant l'augmentation générale d'une indifférence égoïste qui fait le lit des particularismes et des populismes, et où la haine croit rapidement. À cet égard, il note des recrudescences barbares de l'antisémitisme qu'il ne se lasse pas de condamner fermement. Pour affronter ce problème à la racine, le pape enjoint à défricher ces terrains de haine en y semant la paix à travers l'intégration, la recherche et la compréhension de l'autre. La déclaration conciliaire Nostra Aetate mettait en exergue le riche patrimoine spirituel commun aux juifs et aux chrétiens et invitait à le découvrir. Je sens qu'aujourd'hui en particulier, nous sommes appelés, nous, à ce service, nous faire proches et inclure, et le pape d'en appeler à la cohérence des croyants. Si nous ne le faisons pas, nous qui croyons en celui qui du haut des cieux s'est souvenu de nous et a pris à cœur nos faiblesses, qui le fera ?
Manuela Affigi. Et 75 ans après Auschwitz, pour marquer cet anniversaire, Israël s'apprête à accueillir demain une quarantaine de dirigeants mondiaux à Jérusalem. Vladimir Poutine, Emmanuel Macron ou encore le vice-président américain Mike Pence sont attendus. Après un week-end de violence à Beyrouth, le président libanais Michel Aoun réunit aujourd'hui les hauts responsables de l'armée et de la sécurité du pays. Les affrontements de samedi et dimanche ont fait 500 blessés. La colère populaire s'amplifie tandis que la crise s'enlise. Il n'y a au Liban toujours pas de gouvernement pour mener des réformes de fond et freiner cet effondrement social et économique qui guette le pays. Dans le nord d'Israël, le long de la frontière avec le Liban, la tension est encore montée d'un cran depuis la mort du chef militaire iranien Soleimani. 250 000 habitants vivent du côté israélien de la frontière avec en face le Hezbollah qui tient le sud du Liban. Les municipalités tentent de s'allier donc pour obtenir les fonds promis de la part du gouvernement pour construire de nouveaux abris, mais face au blocage politique, aucun budget n'a été accordé depuis 2 ans. Le reportage le long de la frontière de notre correspondant Marc Pietralatin.
Des explosions comme celle-ci, on en entend plusieurs fois par jour à Arab al-Ramsha, un village bédouin sur territoire israélien. Le village d'Aramsha est littéralement à quelques mètres de la ligne bleue, la ligne de démarcation tracée il y a 20 ans par l'ONU après le retrait israélien du Liban.
We always hear airplanes flying.
C'est Adam Swidan, un habitant d'Aramsha.
Oui, ici, il y a tous les jours un survol des avions militaires. L'armée qui se déplace et des explosions, alors oui, on est inquiet. Si quelque chose devait arriver à court terme, on n'a pas le temps de se mettre en sécurité. C'est un problème.
Les autorités reconnaissent le problème. Un budget de 5 milliards de shekels a été voté il y a 2 ans pour la protection civile. C'est presque 1 milliard d'euros. Mais faute de gouvernement et de loi de finances, tout est bloqué. Moshe Davidovitch est le président du Forum des municipalités de la ligne de front. Il veut s'assurer que le gouvernement n'oublie pas ses habitants.
Les autorités centrales, mais aussi nous, les autorités régionales, avons bien conscience que la protection des citoyens est une priorité. C'est pour de bonnes raisons que nous faisons en sorte de rappeler à tous que ça doit rester une priorité.
Une inquiétude mêlée d'espoir. On espère que les élections du 2 mars, les troisièmes en 12 mois, permettront de former un gouvernement et donc de mettre enfin en place le renforcement promis de la protection civile.
Les Européens veulent obtenir le contrôle de l'embargo sur les armes à destination de la Libye. Mais pour cela, il faut convaincre l'Italie de relancer l'opération navale Sophia. C'est donc dans le sillage de la conférence de Berlin sur la Libye tenue hier qu'une réunion se tient actuellement à Bruxelles entre ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne. La condamnation saoudienne aujourd'hui de l'attaque terroriste attribuée aux rebelles au Yémen. Cette attaque au missile visant un camp militaire des forces armées loyales au président yéménien avait fait plus de 100 morts samedi. C'était l'une des plus meurtrières depuis le début de la guerre au Yémen en 2014. En Irak, le mouvement de contestation ne faiblit pas. L'avenir politique du pays est toujours très incertain et les manifestants défilent de nouveau ce lundi dans les rues de Bagdad. Ils avaient donné jusqu'à aujourd'hui au gouvernement pour qu'il réponde à leurs aspirations. Il n'est pas certain que leurs revendications soient satisfaites. Olivier Bonnel.
Comme depuis plusieurs mois, c'est dans la capitale irakienne, comme dans les villes du sud de Najaf ou Nasiriyah, que les manifestants sont les plus déterminés. Depuis octobre, ils demandent par milliers une refonte du système politique du pays, alors que leur manifestation avait été éclipsée par le bras de fer entre l'Iran et les États-Unis. Dès hier soir, les manifestants ont bloqué des routes et des ponts en brûlant des pneus. Des scènes vues encore ce matin dans le centre de Bagdad, où de jeunes Irakiens ont dressé des barricades métalliques, masques sur le visage pour se protéger des gaz lacrymogènes de la police. Les affrontements avec les forces de sécurité sont violents, ils ont fait ce matin au moins 2 morts et 60 blessés. Dans l'ultimatum lancé au gouvernement, les manifestants appellent à des élections anticipées et demandent une réforme de la loi électorale, la désignation d'un premier ministre indépendant et la fin de la corruption. Le leader chiite, Moqtada al-Sadr, a appelé à une large manifestation vendredi prochain pour dénoncer la présence américaine en Irak. Les manifestants craignent une fois encore que leur mouvement passe au second plan. Depuis le mois d'octobre, la répression des manifestations en Irak a fait au moins 460 morts et 25 000 blessés.
Olivier Bonnel. Le Royaume-Uni souhaite devenir l'investisseur commercial numéro 1 en Afrique. C'est l'ambition affichée par Boris Johnson. Le Premier ministre britannique convoque aujourd'hui à Londres 16 dirigeants africains en sommet, le tout premier de ce genre. Le Royaume-Uni à la recherche de nouveaux partenaires commerciaux alors que le Brexit, prévu le 31 janvier, mettra fin à 47 ans d'échanges privilégiés avec l'Union européenne. Mission test réussie pour SpaceX, la société de lancement américaine dirigée par Elon Musk, a testé avec succès hier l'éjection d'urgence d'astronautes de la fusée Falcon 9, quelques instants après son lancement depuis Cape Canaveral en Floride. Il s'agissait de la dernière étape avant que la NASA autorise un vol habité à destination de la Station spatiale internationale et qui pourrait avoir lieu ce printemps. Toutes les précisions de Frédéric Castel. 3,
2, 1, 0. Ignition, lift off. 84 secondes après son lancement de Cap Canaveral, la fusée Falcon 9 a volontairement coupé ses moteurs, ce qui a permis au système de sauvetage de la capsule Crew Dragon de la firme SpaceX de prouver qu'elle pouvait se séparer immédiatement du lanceur et être propulsée en toute sécurité dans l'océan Atlantique à 30 km des côtes de Floride. Alors que le premier étage de cette fusée a ensuite volontairement explosé au lieu d'être réutilisé, le système d'éjection de la capsule avec ses 8 moteurs a permis d'éloigner en quelques secondes à 700 km/h le vaisseau spatial de SpaceX. Grâce à 4 immenses parachutes, la capsule Koenig, sans astronaute, a améri 10 minutes après son lancement et a été récupérée par des équipages de sauvetage de la NASA et de SpaceX. Pour la NASA, le succès de ce test est un soulagement car il devrait permettre de lancer pour la première fois depuis 9 ans des astronautes américains de nouveau depuis les États-Unis et ne plus dépendre ainsi des Russes. Frédéric Castel pour Radio Vatican.
Tempête de sable, averse de grêle et poussières apocalyptiques, l'Australie déjà sinistrée par les feux en proie aujourd'hui à de nouveaux phénomènes climatiques extrêmes. D'intenses pluies accueillies comme un répit dans la lutte contre les incendies qui durent depuis des mois. Mais la saison des feux de forêt est loin d'être terminée sur l'île continent qui est actuellement en plein été. Les terres qui ont brûlé depuis septembre en Australie forment ensemble une superficie plus grande que le Portugal. Et en plus d'avoir détruit plus de 2000 maisons, les incendies ont également fait au moins 29 morts. Ainsi s'achève cette édition. Merci à tous de votre fidélité et écoute attentive à nos journaux. Retour de l'actualité internationale, religieuse et vaticane, ce sera tout à l'heure en direct de Rome à 18h. Excellente journée.